C'est l'heure du journal de ce vendredi 22 juin 2012. Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonjour. Près de 170 morts hier en Syrie, conséquence des combats et des bombardements, en particulier à Homs, Dera et Douma, près de Damas.
Hier, un nouveau militaire a fait défection. Un pilote a quitté la Syrie aux commandes de son MiG-21 et a trouvé refuge en Jordanie.
Le nouveau gouvernement grec et les besoins des banques espagnoles ont dominé la réunion de l'Eurogroupe hier soir à Luxembourg. Mais les pays de la zone euro se sont aussi intéressés aux finances de la France, nous dira Pierre Benazet.
À noter que l'agence Moody's vient de dégrader les notes de trois banques françaises, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole.
On attendait Robert Rue. Finalement, ce sont trois socialistes et une radicale de gauche qui font leur entrée au gouvernement.
Alors nous reviendrons aussi sur la désignation du séquano-dionysien socialiste Claude Bartolone pour briguer la présidence de l'Assemblée.
Et nous nous intéresserons aux recommandations de la CNIL en matière de vidéosurveillance, un dossier suivi par Éric Chavroux. Les affrontements ont été particulièrement meurtriers hier en Syrie. D'après les informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 170 personnes, en majorité des civils, ont trouvé la mort. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés près de Damas, à Douma, dans le sud, à Dera, et dans le centre, à Homs, où le comité international de la Croix-Rouge n'a pas encore pu secourir les blessés. La correspondance de Valérie Krova.
La journée d'hier était l'une des plus sanglantes depuis le début du mouvement de contestation. À Homs, où certains quartiers sont toujours tenus par les combattants de l'armée syrienne libre, le comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien attendent toujours le feu vert des autorités et des rebelles pour pouvoir secourir des centaines de personnes malades ou blessées. Les équipes qui sont sur place ont dû rebrousser chemin hier après avoir essuyé des tirs. Les rebelles et les forces fidèles au régime avaient pourtant donné leur accord de principe pour instaurer une trêve permettant à la Croix-Rouge d'évacuer les civils qui ne peuvent quitter la ville de Homs, soumise à d'intenses bombardements depuis une dizaine de jours.
Des dizaines de milliers de soldats syriens avaient déjà déserté, souvent pour rejoindre les rangs de l'armée syrienne libre. Mais la désertion d'hier est sans aucun doute la plus spectaculaire. Un pilote a posé son MiG-21 sur le sol jordanien, sur l'aéroport de Mafraq, et il a demandé l'asile politique que les autorités jordaniennes lui ont rapidement accordé. On retrouve Angélique Ferrat à Amman.
Le pilote a demandé l'asile politique. Le gouvernement jordanien le lui a accordé dans la journée pour des motifs humanitaires, selon le communiqué du Conseil des ministres. Si l'homme retourne dans son pays, il pourrait être tué ou torturé, a souligné une source jordanienne. Les autorités syriennes ont d'abord parlé d'un atterrissage par erreur sur le sol jordanien, puis en fin de journée, le ministère de la Défense syrien a qualifié le colonel déserteur de traître. C'est la première défection d'un pilote avec son avion depuis le début de l'insurrection. Cet homme serait originaire de la ville de Deir ez-Zor, au nord-est du pays. L'armée syrienne libre dit avoir encouragé le pilote à déserter, car c'est un coup dur pour l'image du régime syrien. L'armée de l'air est traditionnellement très fidèle au régime bassiste. Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, était lui-même un pilote de chasse. La Jordanie a déjà accueilli environ 200 militaires et quelques officiers de l'armée de terre syrienne. Pour l'instant, ces défections restent toutes des gestes individuels. Washington a bien entendu salué le geste du militaire syrien, un geste juste. Les États-Unis ont dit encourager les militaires syriens à suivre cet exemple pour éviter de se rendre complices des exactions du régime. Damas a, elle, entrepris des démarches auprès d'Aman pour récupérer l'appareil militaire, un MiG-21.
Soulagement en Espagne, les besoins en capitaux des banques espagnoles s'avèrent moins élevés que prévu. Un audit indépendant les estime à 62 milliards d'euros. Madrid doit maintenant rapidement adresser une demande officielle d'aide financière à ses partenaires européens. Hier soir, à Luxembourg, les ministres des Finances de la zone euro ont affirmé leur solidarité avec l'Espagne et la Grèce. Mais ils se sont aussi souciés de l'état des finances de la France, Pierre Benazet.
Les ministres des Finances de la zone euro n'avaient pas seulement les yeux rivés sur la situation grecque ou espagnole, ils attendaient aussi avec intérêt Pierre Moscovici pour cette première participation du ministre français des Finances à l'Eurogroupe. La France a beau ne pas être dans une situation comparable à celle des pays méditerranéens, ses partenaires européens avaient besoin d'être rassurés sur ses intentions après l'élection de François Hollande, vue d'Europe comme annonciatrice de revirements majeurs. Mais Pierre Moscovici estime avoir montré que les changements de politique n'entraîneraient pas l'abandon des objectifs d'assainissement des finances publiques.
J'ai voulu dire à la fois quelle était la philosophie de ce que nous allons faire. D'abord, redresser nos comptes publics, ensuite redresser la compétitivité de l'économie française. J'ai indiqué ce qu'était le calendrier, la méthode, et réaffirmé de la manière la plus claire que nous tiendrions nos engagements. 4,5% en 2012, 3% en 2013, le retour à l'équilibre en 2017. nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Et j'ai senti qu'effectivement, il y avait de l'écoute et de la crédibilité, même si il peut y avoir ici ou là des divergences.
Et tous ici espèrent maintenant que les divergences pourront être aplanies pour le sommet européen de la semaine prochaine.
Et avant le rendez-vous de Bruxelles, il y a celui de Rome cet après-midi. Mario Monti accueillera Mariano Rajoy, François Hollande et Angela Merkel. Les quatre dirigeants vont discuter d'un ensemble de mesures de relance économique et de stabilisation financière susceptibles de rassurer les marchés. La chancelière allemande se rendra ensuite en Pologne pour suivre un match de football qui prend une résonance particulière. Le bon et le mauvais élève de l'Europe, l'Allemagne et la Grèce s'affrontent en quart de finale de l'Euro 2012, Bruno Cadet.
Le match de la dette. La presse internationale a trouvé un surnom à ce Grèce-Allemagne. Les clichés sont faciles pour une rencontre entre des Grecs surendettés et des Allemands qui leur prêtent de l'argent. Le tout en Pologne, pays qui a évité la crise avec une croissance de 4% et qui souhaite à terme entrer dans la zone euro. D'ailleurs, le football n'échappe pas à la comparaison avec d'un côté des clubs allemands richissimes et sans dette et des clubs grecs, même les plus prestigieux, au bord du gouffre. Avec 2 joueurs sur 3 pas entièrement payés cette saison et des arriérés de salaire allant parfois jusqu'à 6 mois, des stades qui se vident et des droits télé en chute libre. Et pour couronner le tout, Angela Merkel assistera au match et peut-être donc au triomphe de l'Allemagne. Mais cette présence de la chancelière concerne plutôt les relations germano-polonaises. Depuis le début de l'euro, l'Allemagne marche sur des œufs en Pologne et multiplie les gestes pour commémorer le passé douloureux entre les deux pays. Le 1er juin dernier, une délégation de l'équipe d'Allemagne s'est rendue au camp d'extermination d'Auschwitz et hier, le président de la Fédération allemande de football est allé déposer une gerbe de fleurs au mémorial de la bataille de Westerplatte. C'est là, près de Gdansk, qu'avait débuté la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre 1939 avec l'attaque des nazis contre une garnison polonaise. La venue d'Angela Merkel à Gdansk n'a donc visiblement pas de lien avec la situation en Grèce, même si la chancelière ne s'attend pas à un accueil chaleureux des supporters grecs.
Il a fallu attendre 21h hier soir pour connaître les retouches apportées au gouvernement Ayrault dans la foulée des élections législatives. Au bout du compte, les changements sont modestes, avec l'arrivée de 4 ministres délégués et la redéfinition des contours de certains ministères, Louise Baudet.
Pas de Robert Rue dans la nouvelle équipe, mais un royaliste, des sénateurs et une radicale de gauche. Déjà pressenti dans le gouvernement Ayrault 1, le député maire de Laval, Guillaume Garot, un proche de Ségolène Royal, devient ministre délégué à l'agroalimentaire, pendant qu'une autre royaliste, Delphine Bateau, monte en grade. Elle est exfiltrée du ministère de la Justice, où elle ne s'entendait pas avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et se retrouve promue à l'écologie, un ministère de plein exercice, où elle remplace Nicole Bric, qui passe au commerce extérieur, porte feuilles non pourvues dans le précédent gouvernement malgré un déficit record. Les 3 autres entrants sont tous des sénateurs peu nombreux dans le précédent gouvernement. Thierry Repentin récupère la formation professionnelle, Hélène Conway les Français de l'étranger et Anne-Marie Escoffier la décentralisation. La sénatrice de l'Aveyron, par ailleurs membre du Parti radical de gauche, qui se félicite aussi de la promotion de Sylvia Pinel dont le portefeuille de l'artisanat, du commerce et du tourisme devient un ministère de plein exercice.
Et puis l'on connaît le futur président de l'Assemblée nationale. Les députés socialistes ont choisi leur candidat, ce sera Claude Bartolone. Le député de Seine-Saint-Denis a été élu à l'issue du premier tour après désistement de ses adversaires. Claude Bartolone n'est pas un proche de François Hollande, mais il a su créer le consensus autour de lui, Frédéric Saïs.
La prime à l'expérience. Claude Bartolone est le député socialiste le plus ancien à l'Assemblée nationale, élu sans interruption depuis 1980. Décrit comme tacticien rusé, proche de Laurent Fabius, passé à Martine Aubry, il n'a oublié aucun courant dans cette élection. C'est par exemple le seul des 4 candidats, lors de son discours à huis clos, à avoir rendu hommage à Ségolène Royal. Discours dans lequel il a aussi assuré vouloir défendre tous les territoires, notamment ruraux et d'outre-mer. Ses concurrents faisaient du député de Saint-Denis, le candidat des villes pour ce vote en forme de plébiscite. Claude Bartolone a aussi bénéficié, comme le soulignent de nombreux députés hors micro, de l'animosité qu'inspire Elisabeth Guigou, décrite par ses pairs comme cassante, individualiste. L'ancienne garde des Sceaux n'est arrivée qu'en 3e position derrière Jean Glavany. Claude Bartolone sera maintenant officiellement élu président de l'Assemblée nationale ce mardi par l'ensemble des députés. Il a déjà une tête à être au perchoir, sourit l'un de ses proches. Il est vrai que son CV ressemble à celui de ses prédécesseurs, Bernard Accoyer, Jean-Louis Debré à droite, Laurent Fabius à gauche, des députés installés, respectés du camp adverse et qui savent calmer l'hémicycle par gros temps parlementaire. Mais le président de l'Assemblée nationale n'est pas seulement l'homme du rappel à l'ordre, il dispose aussi d'un pouvoir de nomination, notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, ainsi qu'au Conseil constitutionnel. Voilà sans doute aussi pourquoi ce poste était aussi disputé.
Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, se rend ce matin à Hyères, dans le Var, pour un hommage national aux deux gendarmes tués dimanche à Colombrière. Des cérémonies sont prévues au même moment dans toutes les unités de gendarmerie de France et une marche blanche doit se tenir en fin de journée dans le village où s'est produit le drame. Quand la sécurité vire à l'espionnage, en un an, les plaintes concernant les caméras de surveillance ont augmenté de 32%, souligne la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté a donc édité un guide pour rappeler les règles en matière de vidéosurveillance et de vidéoprotection. Éric Chavroux.
La vidéosurveillance au travail inquiète de plus en plus. Les plaintes se multiplient, 215 l'an dernier, soit une augmentation de 13% par rapport à 2010. Caméras intrusives, personnel non informé ou enregistrements illégaux, Patricia Lonceau est bien placée pour le savoir, représentante de la CGT dans un secteur exposé, l'ameublement.
On est confronté, notamment chez IKEA, mais une instruction est en cours, donc là on fait confiance au juge. Et puis au sein d'autres enseignes, on peut constater régulièrement, suite à l'appel de représentants du personnel, des salariés aujourd'hui sanctionnés pour être arrivés 30 secondes en retard à son poste de travail ou être sortis en pause, fumer une cigarette alors qu'il en a le droit. Enfin, des abus de ce type-là, donc des sanctions qui n'ont pas lieu d'être mais parce qu'on les a visionnés sur une caméra.
La CNIL est allée jusqu'à découvrir des dispositifs dans des lieux de repos, des vestiaires et même cachés dans des détecteurs de fumée. Mais elle n'a pu réaliser qu'une centaine de contrôles l'an dernier sur des centaines de milliers d'installations. Et sa directrice des relations avec les usagers et du contrôle, Florence Fouretz, reconnaît aussi les limites des amendes actuelles, moins élevées que dans d'autres pays européens.
Très honnêtement, les montants de sanctions pécuniaires prévus par la loi ne sont absolument pas craints par le secteur privé, puisque quand vous avez affaire à des grosses sociétés, le cas échéant multinationales, une amende de 150 000 euros, finalement, ce n'est vraiment pas grand-chose. Non, ce qui est beaucoup plus inquiétant, et ce qui nous est le plus souvent demandé par des structures, notamment privées, c'est que la publicité ne soit pas prononcée, puisque c'est bien plus l'opprobre d'une certaine manière publique qui est craint.
Désormais, en tout cas, employeurs et salariés peuvent s'informer grâce à des fiches pratiques téléchargeables sur le site de la CNIL, qui n'a toutefois pas dialogué avec les syndicats et le patronat à ce sujet, mais à propos de la biométrie.
Selon les chiffres officiels, quelques 935 000 dispositifs de surveillance fonctionnent actuellement en France. Mission accomplie pour Solar Impulse. L'avion solaire suisse a atterri cette nuit à Ouarzazate, dans le sud du Maroc. Après plus de 17 heures et 30 minutes de vol, le tout sans la moindre goutte de carburant. Un exploit qui fait rêver les écologistes, plus que ne le fait le sommet de la Terre. Le document final que doivent ratifier aujourd'hui les pays membres de l'ONU est jugé très décevant. Les ONG se consolent un peu en mesurant l'implication de la société civile en matière environnementale. Le reportage à Rio de Véronique Reberotte.
Un sommet en dessous de tout, Rio moins 20 et Paris au plus 20. Les ONG accusent le coup, mais ne comptent pas laisser tranquille les politiques de ce monde, incapables d'être à la hauteur des enjeux planétaires. Les raisons d'espérer pour les associations, la société civile très mobilisée autour du sommet de la Terre, un rassemblement des peuples, aux idées débordantes, un gisement d'énergie aussi important que la déclaration finale d'un sommet. Éric Darrier, membre de Greenpeace Québec.
Ce n'est pas avec un document qu'on change le monde. Ça peut être une base, mais ce n'est pas suffisant. On voit ici, il y a des milliers de personnes, d'ONG, de partout dans le monde. Et je pense que ça révèle en fait les progrès quand même qu'il y a eu au niveau de la société civile depuis une vingtaine d'années sur une forte mobilisation en matière environnementale. Il faut prendre ces énergies qui sont là et prendre cette frustration de ce texte minable pour en faire quelque chose de positif et de continuer à se battre. De toute façon, il y a une urgence planétaire. C'est incontournable. Il va falloir agir pour prendre les bonnes mesures. Et je pense que les politiciens traînent la patte très sérieusement et que ça va être à nous de les pousser un petit peu plus.
Greenpeace, qui a lancé une de ses campagnes les plus ambitieuses hier à Rio, sauver l'Arctique des forages pétroliers, des réserves de pétrole évaluées à 725 000 milliards d'euros, forcément très convoitées.
Ce soir, le magazine de la rédaction sera consacré à la croissance verte avec des reportages de Jean-Marc Chardon et la participation de Véronique Rebérotte depuis Rio. Rendez-vous à 18h15, juste après le journal. Le ciel se fait plus clément aujourd'hui. Quelques averses sont encore annoncées près de la Manche, dans le Nord et jusqu'en Île-de-France. Mais ailleurs, les passages nuageux alterneront avec de belles éclaircies. Cet après-midi, il fera 17 degrés à Cherbourg, 21 à Paris, 24 à Lyon, 25 à Toulouse et 31 à Marseille.